Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Philippe Delorme est un habitué de cette émission. Il est l'invité de Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Philippe est venu nous parler d'un personnage un peu ancien, mais que l'actualité a remis d'une certaine manière sous les feux de la rampe. Une des plus anciennes reines de France, venue tout droit d'Ukraine, Anne de Kiev. Voilà qui devrait faire plaisir à Claude, à Loris, à Sylvie, qui souhaitait entendre parler d'Anne de Kiev.
Tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Aurélien sur les origines des casinos.
Casinos, ça devrait nous emmener à Venise, si je ne m'abuse. Pour le moment, je vous propose une plongée dans l'État russe du XIe siècle.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Remontons donc un certain nombre de siècles en arrière, au temps où Kiev était la métropole la plus puissante du sous-continent européen, capitale de ce pays en effervescence. Il y a là un grand prince qui va donner une reine à la France. Nous allons revivre le destin de cette Anne de Kiev qui était la première régente de France et que les Français, disons-le, ont presque oublié. Alors Philippe Delorme a écrit les vies d'un certain nombre de reines de France. C'est vrai que c'est très intéressant de revenir sur celle-ci qui avait un caractère extraordinaire. Et puis, nous allons tenter de voir pourquoi et comment les dirigeants de la Grande Russie en sont venus peu à peu à prendre barre sur l'ancienne puissance mère kievienne au point de satelliser l'Ukraine, quand je vous disais que nous ne sommes pas très loin de l'actualité, bien entendu. Alors, nous sommes là en l'an 1048, donc en plein milieu du XIe siècle. En France, vous imaginez ce que c'est que le régime, hein, cette sorte de théocratie qui s'est installée, l'Église est parvenue à imposer la paix de Dieu et le pays est en train de se couvrir de ces églises romanes qui resteront peut-être comme sa plus belle parure. Pour le moment, nous sommes loin du royaume de France. Nous sommes aux abords de Kiev, la sublime, la principauté du grand Yaroslav, la cité aux 400 clochers. Nous découvrons cette métropole en même temps que l'évêque Roger de Chalon et que l'ambassade envoyée par le roi de France, Henri Ier, en vue de négocier son mariage avec la plus jeune fille du grand prince de Kiev. Il faut la voir, cette ville enclose dans sa muraille. Elle se dresse sur ses collines, casquée de coupoles dorées, de bulbes, vous savez, c'est avec ces bulbes qui sont couverts pour certains de véritables écailles de bois. L'immensité, la splendeur, l'extrême richesse de cette Kiev médiévale sont dues à sa situation de carrefour commercial incontournable. Les chemins de l'Europe occidentale, de Mayence, de Prague, de Cracovie, etc. vont converger là-bas, de même à l'est que ceux de la Caspienne, de l'Arabie et même de l'Inde et de la Chine via un certain nombre de caravanes marchandes. Kiev est en contact étroit avec Varsovie, avec Koursk, avec Constantinople au sud, du golfe de Finlande jusqu'au détroit du Bosphore. Elle contrôle une voie fluviale dont le Dniepr constitue l'essentiel. C'est la fameuse route des Varègues. Cette route qui menait vers la Grèce, voie navigable presque tout du long. Il n'y a eu que deux portions terrestres qui ont obligé les marchands à faire tirer les bateaux à terre. On fait tirer les bateaux par des bœufs ou par des chevaux et puis hop, on les remet à l'eau dès que de nouveau on peut naviguer. Alors, on va revenir sur cette Kiev de Yaroslav. Nous allons la visiter. Nous suivrons la princesse Anne depuis Kiev jusqu'à Senlis, de l'opulente cour de son père jusqu'à la cour de France, que l'époque, disons-le, est bien modeste. Mais avant ça, j'aimerais vous fixer un petit peu le paysage historique de cet empire de Kiev. D'où vient-il? Qui l'a constitué? Dans quelles conditions? Ce sont des questions qu'il me paraît nécessaire de clarifier pour s'y repérer. Dès le 9e siècle, les Slaves orientaux ont fait souche le long des fleuves situés entre la mer Baltique au nord et la mer Noire au sud, à commencer par le bassin donc du Dniepr, je vous disais, la Lovat. Ce sont essentiellement des nomades, mais qui s'installent dans quelques foyers qu'on peut pas encore appeler des villes. Hein. Je pense tout au nord à Novgorod, et puis sur le Dniepr moyen à Kiev. Or, à la fin du IXe siècle, ces tribus vont être unifiés par une dynastie, les Riurikides. Alors, ils descendent de Riurik, et ça nous ramène aux Varegs. J'étais, il y a quelque temps, sur la mer Baltique, en croisière, j'ai fait des conférences sur ce sujet, sur ces Varegs, qui ont été d'incroyables conquérants et d'incroyables civilisateurs, d'une certaine manière. Ce sont ces peuples qui viennent de Scandinavie, et qui vont débarquer très à l'est, aux embouchures, justement, des grands fleuves, des futurs grands fleuves russes, qui vont vouloir descendre vers Constantinople. Ils sont établis dès 862 près de Novgorod, et puis les successeurs de Yurik s'emparent d'un certain nombre de provinces, de Kiev notamment. Ils vont faire là un état qu'on va appeler Rousse, de leur propre nom. Vous voyez qu'on est à l'origine de la Russie. Ça, c'est en tout cas la version historique officielle jusqu'en 1917, avec une primauté donnée à l'idée d'envahisseurs germaniques venus civiliser les peuplades slaves orientales de la région. Par la suite, les historiens soviétiques voudront réécrire cette histoire et donner aux slaves locaux une importance plus grande. Bon, je ne vais pas revenir moi sur toute cette polémique. Toujours est-il que, viking ou pas, il y a bien eu ici un foyer de civilisation extraordinaire au tournant du millénaire. Il y avait, c'est vrai, déjà une culture, une langue, une origine, une organisation slave, ça c'est incontestable, mais tout ça a été fédéré, dynamisé, développé dans des proportions folles par les fameux Varegs. Les premiers grands princes Riurikides s'appellent Igor, Ingvar, hein, en viking, Oleg, qui était auparavant Ilgi. Ce qui importe dans cette affaire, disons-le, c'est que sous l'impulsion des Varegs, le nouvel État qui vient se tourne vers la grande civilisation du Sud, c'est-à-dire vers Byzance. Le marché de Constantinople est extrêmement attrayant, bien entendu, pour cette nouvelle culture, pour cette nouvelle population. Et peu à peu, on va, alors dans un premier temps, essayer de faire des raids hein, sur Constantinople, littéralement. C'est très violent, les premiers contacts. Et puis petit à petit, à partir de 911, on se met à traiter avec les Byzantins. La paix et les accords sont renouvelés en 944. Et là, il se passe un événement de la plus haute importance. En 957, la princesse Olga, Sainte Olga, va adopter la religion chrétienne des Byzantins. Elle a été reçue à Byzance sur un tapis de roses. Elle est considérée comme l'évangélisatrice, si l'on peut dire, de toute cette région. C'est un premier pas, ça, de ce pays, de la Rousse, vers l'orthodoxie byzantine. En 988, l'empereur byzantin, le Basileus, va donner sa sœur en mariage au grand prince Vladimir, à condition que Vladimir soit baptisé dans la foi orthodoxe. Vladimir accepte. Il ordonne que toutes les idoles païennes de Kiev soient jetées dans le Dniepr. C'est le début de ce qui deviendra la Sainte Russie. Vladimir le Grand va couvrir la cité rurique de centaines d'églises. Il y en aura 700 à la grande époque. Tout ça est extraordinaire. On va en reconstruire sous le règne de Yaroslav, après un incendie terrible qui a eu raison de la plupart des églises de Kiev. On va rebâtir tout ça en pierre. Rousse, cette espèce d'ancêtre de la Russie, se met à l'école de Byzance pour l'architecture, pour la littérature, pour les arts, avec la peinture d'icônes. Hein, des élèves qui se mettent évidemment à l'école de Byzance, elle est directement soumise, cette nouvelle puissance, au patriarcat de Constantinople. Kiev devient métropole de toute la Russie, je dis de toute la Russie pour ne pas induire de confusion historique, mais vous voyez que traditionnellement, on est bien là dans le creuset, dans l'extraordinaire éclat d'une culture appelée à rayonner sur toute une partie du monde.
sur Europe 1, un extrait d'Alexander Nevsky par Prokofiev. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour la suite de votre récit sur l'Empire de Kiev.
Alors, on est en 1050. Cet état de Kiev connaît son apogée sous le règne du grand prince Yaroslav Ier, qu'on appelle le Sage. C'est lui qui va faire construire la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. Et c'est lui qui reçoit donc, en 1048, la toute première ambassade envoyée par ce roi de France, Henri Ier. Ambassade conduite par un évêque, Monseigneur Roger de Châlons. Alors, ils sont très bien reçus, il faut le dire, les envoyés du roi de France. D'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas dire plutôt du roi des Francs? On verra ça tout à l'heure avec Philippe de Lorme. On ne parle pas vraiment encore le français hein, dans la France ou la Francie de l'époque. Mais cette ambassade a un grand succès, ce qui fait que le roi Henri va envoyer une seconde ambassade au printemps 1050. Et là, on est au temps de l'échange des présents, etc. Donc les Francs vont offrir des brocarts de Flandre, des justaucorps en cuir d'Étampes, des draps de Reims, de la dentelle d'Orléans, des enluminures réalisées par les moines de Saint-Denis. On peut dire que le roi Henri Ier s'est saigné aux quatre veines pour fournir cette ambassade et pour lui donner un grand éclat. Il a même endetté la couronne pour l'occasion. Il faut imaginer les évêques mitrés qui arrivent là, fanions déployés, les saintes reliques sous des dais brodés, avec les barons qui accompagnent dans leurs armures dorées, boucliers peints de vives couleurs et grandes bannières de France. Enfin, tout ça a beaucoup d'éclat, bien entendu. Au début du règne, il faut vous dire que Henri Ier a dû affronter sa propre mère. Alors ça aussi, on va en parler tout à l'heure, cette constance d'Arles, personnage assez extraordinaire. Henri, par la suite, a dû soutenir les prétentions du bâtard Guillaume sur la Normandie, bien entendu, et l'aider à s'imposer contre ses propres barons. On n'était pas très longtemps avant la conquête de l'Angleterre par Guillaume, là, on était en 1047. Entre-temps, évidemment, tout ça est rentré dans l'ordre. Le royaume a été très atteint par tout ça. On est dans une période difficile pour la France. Il reste néanmoins un État puissant, assez imbu de sa grandeur. Alors, qu'est-ce qui a pu pousser ce roi Henri à aller chercher un mariage aussi lointain? Eh bien, il avait épousé dans un premier temps Mathilde de Frise, après d'ailleurs des fiançailles qui avaient été interrompues une première fois par la mort de sa fiancée. Il avait épousé Mathilde de Frise, la nièce de cet empereur des Allemands, qui au début du règne avait soutenu le roi Henri contre les prétentions de sa propre mère. Il était veuf depuis 1044, il n'a pas d'enfant à ce moment-là, et il lui faut une alliance royale étrangère. Alors il se tourne un peu vers les différents états autour d'une autre. Inutile de vous dire que c'est pas le moment d'aller se marier avec une princesse anglaise notamment, puisqu'on est en plein bouleversement là-bas. Et très vite, il va se tourner vers la plus belle ville de la chrétienté après Byzance, c'est-à-dire vers Kiev, bien entendu. Ça paraît relativement normal. Il n'y a pas encore eu, précisons-le à ce moment-là, il n'y a pas encore eu le grand schisme. L'Église ne s'est pas encore coupée en deux, si je puis dire. Ça ne va pas tarder, hein. 1054, l'excommunication mutuelle entre le pape et le patriarche. Mais enfin, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Or, Kiev est extrêmement riche. C'est le pays de toutes les denrées. Tout ça n'est pas négligeable, évidemment, pour le roi de France. Il n'y a qu'à voir les trésors que la jeune promise, Anne, qui donc est la plus jeune fille de Yaroslav, va rapporter dans ses bagages. On dit qu'elle rapporte des peaux d'ours de l'Oural, des fourrures de zibeline, d'astrakhan, des soies d'Ispahan, toutes sortes de parfums d'Arménie, de la vodka déjà, et du caviar, pourquoi pas. En tout cas, toutes sortes de produits qui font rêver l'Occident de l'époque, bien entendu, et surtout, elle arrive avec des caisses pleines de l'or de Colchide, n'est-ce pas, ce grand trésor? Alors jusqu'où est-ce que c'est vrai? Ça aussi, on y viendra tout à l'heure. Le plus beau des trésors, finalement, c'est peut-être la princesse elle-même. Elle a environ 25 ans au moment de son arrivée. Elle est d'une beauté absolument fracassante. Et je laisserai tout à l'heure à Philippe Delorme le soin de nous la décrire avec les termes qui sont les siens. En tout cas, tous les témoins, tous les chroniqueurs sont d'accord sur ce fait. Anne de Kiev est non seulement très puissante, très riche, très civilisée, mais en plus, ce qui ne gâte rien, elle est très belle.
Vous écoutez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 et quand vous le souhaitez, chers auditeurs, vous pouvez réagir. Nous envoyez vos messages et vos questions par mail europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou via Twitter, celui de Franck Ferrand, ou hashtag ACDH. Vous restez avec nous sur Europe 1, on vous retrouve dans un instant, Franck Ferrand, pour continuer d'évoquer le règne d'Anne de Kiev.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Anne de Kiev est au cœur de l'histoire. Vous nous racontez, Franck Ferrand, le destin de la princesse de Russie, épouse d'Henri Ier de France.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Anne va prendre la route des Varegs, à l'envers, si je puis dire, mais elle va remonter, justement, elle va traverser le lac Ladoga, cingler sur la Baltique, cette Baltique qui, finalement, a été la mère de ses ancêtres, d'une certaine manière. On la voit contourner la Scanie, elle va rendre visite, d'ailleurs, à sa sœur Elisabeth, elle va longer les côtes frisonnes, bien entendu, puis arriver jusqu'en Flandre. Elle débarquera à Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer qui se trouvait être propriété de son fiancé, ce roi Henri Ier, bien entendu. Alors, au moment où elle arrive, où elle fait son entrée à Senlis, on est là maintenant en 1051, Henri Ier est tout de suite, dit-on, séduit par la princesse. Les noces sont célébrées en la cathédrale de Reims le 19 mai 1051, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte. Et tout de suite, Anne va être sacrée reine de France. Au cours d'une cérémonie qui va dans la foulée de celle de son mariage, en vérité, et elle s'installera au château de Senlis. C'est Nicole qui, via Facebook, nous le dit. Elle dit elle venait souvent à Senlis et elle y fit construire une école et l'abbaye Saint-Vincent. Elle a sa statue route de Chantilly. Et pour cause, on va voir, et effectivement, la reine vivre à Senlis avec toute une maison, bien entendu. On est au début du XIe siècle. La monarchie française n'a pas atteint la splendeur, évidemment, qui sera la sienne par la suite, mais tout de même, on mène grand train dans l'entourage d'Anne de Kiev. Elle aime particulièrement la musique et les chants. Hein, elle constitue un chœur, du reste. Elle chante elle-même volontiers. Et au cours des premières années de son mariage, elle va donc rester à Senlis. Elle va donner le jour à trois fils. Philippe, qui est le futur roi Philippe Ier. Robert, qui va mourir environ à l'âge de 5 ans. Et puis le futur comte de Vermandois, Hugues. Évidemment, c'est une reine qui donne des héritiers à son mari. C'est une reine très belle et jeune et très aimée. Néanmoins, il ne faudrait pas non plus rendre ce tableau trop idyllique. Et je compte sur Philippe de Lorme pour nous dire dans un instant la vérité sur Anne de Kiev, qui notamment parlait extrêmement mal le français. Elle a eu un mal fou à se mettre à la langue de son nouveau pays. En juillet 1058, elle séjourne à Melun. En août de la même année, on la retrouve à Cambrai, où le roi va délivrer un diplôme à l'abbaye d'Asnon. Et en mai 1059, elle est à Reims, où elle assiste avec toute la famille royale au sacre de son fils aîné. Puis elle se rend à Dreux pour y faire une donation en faveur de Saint-Pierre de Chartres. Seulement, le 4 août de cette année 1060, alors que tout avait l'air de se passer bien, le bonheur conjugal est brisé, si je puis dire, puisque Henri Ier vient à mourir. Il laisse Anne de Kiev veuve. Elle a 36 ans à l'époque, mais son fils n'a que 7 ans. Ce qui veut dire qu'elle va devenir régente. Elle est la toute première régente de l'histoire de France. Quand on dit Anne, reine et régente, hein, c'est qu'elle devient la première régente. Très vite, elle va être... alors ça, c'est une histoire assez incroyable. Elle est littéralement enlevée par Raoul de Péronne, par le comte de Crépy, qui va l'épouser. Il se trouve que ce bonhomme-là est bigame. Alors ça tombe pas bien, évidemment. Les époux seront excommuniés. La fin de la vie d'Anne est à la fois triste et belle, puisqu'elle sera répudiée par son nouvel époux. Elle reprend la route de sa chère terre natale et, chose absolument incroyable, elle reverra les bulbes étincelants de l'église de l'Annonciation qui surmonte la Zolitier, la porte d'or de Kiev, où elle mourra vers 1075. Voilà un parcours assez extraordinaire. Alors, que deviendra l'Ukraine par la suite? Que va devenir cet état de Kiev qui prend le nom de Galicie-Volhynie? C'est la décadence, hein, il faut bien le dire. tout un système de succession inapproprié, des querelles d'héritage vont précipiter le pays dans les pattes, dans les griffes d'un Ramina Grobis qui met tout le monde d'accord au milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire les Tatars, hein, les Mongols, qui vont prendre Kiev en 1240, qui détruisent l'ancienne Rousse kievienne. L'ancien État est partagé par la suite entre la Pologne et la Lituanie. Il y a un État lituanien unifié à cette époque. L'Église ukrainienne orthodoxe va être réunie de force à Rome. Il y a des résistances des Ukrainiens orthodoxes, nostalgiques de leur empire. Ça nous entraînerait ça dans bien des complications et bien des guerres. Simplement, sachez que l'Ukraine sera partagée dans un premier temps entre Pologne et Russie en 1667. Et à partir de là, la pression des tsars ne va cesser de se renforcer, puisqu'en 1775, la Grande Catherine supprime les dernières libertés cosaques. Il y a un deuxième partage en 1793. Et puis, l'ancien État de Kiev va entrer sous la domination définitive de la Russie, avec une première parenthèse tout à fait illusoire d'indépendance entre 1917 et 1920. Et puis, ce que l'on connaît maintenant et ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire tout ce qui a pu se passer depuis le milieu de l'Empire soviétique, depuis 1954, notamment pour ce qui concerne la Crimée. D'une façon générale, disons que à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais eu d'indépendance kievienne jusqu'à une période extrêmement récente. Mais ça n'appartient plus à l'histoire, c'est déjà de l'actualité. Bonjour Philippe Delorme.
Bonjour.
J'ai repris un certain nombre des traditions colportées sur le compte de la reine Anne de Kiev. Avec vous, nous allons maintenant venir au personnage non plus mythique, mais historique.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Anne de Kiev. Anne de Kiev est au cœur de l'histoire. Vous recevez Franck Ferrand, l'historien et journaliste Philippe Delorme, responsable éditorial du magazine Point de vue Histoire et auteur du livre Anne de Kiev, paru aux éditions Pygmalion.
Oui, nous entendons en arrière-fond ces notes de musique médiévale qui nous ramènent un peu au XIe siècle. Alors, j'ai beaucoup insisté sur l'État de Kiev. J'ai très peu parlé de l'État de France à l'époque. À quoi ressemble le royaume de France au temps d'Henri Ier?
Le royaume de France est un peu une mosaïque, je dirais, de principautés, de comtés qui se font la guerre, qui sont antagonistes. Et le pauvre roi de France, c'est la dynastie capétienne. C'est une dynastie nouvelle puisque Henri Ier, le petit-fils du fondateur, Hugues Capet. Et cet Henri Ier ne règne finalement réellement que sur un petit territoire autour de Paris et d'Orléans.
Oui, c'est ça.
Même si le fait...
Ça, c'est son domaine, ça.
Voilà, c'est son domaine. C'est le domaine sur lequel il a vraiment un pouvoir direct. Et d'ailleurs, il circule. On a parlé de Senlis, mais la famille royale,
oui, c'est
à Paris,
etc. Compiègne,
voilà, circule dans ce domaine pour vivre sur le terrain, je dirais.
Et, oui, disons les choses clairement.
Oui,
la cour vit sur l'habitant, donc il faut qu'elle se déplace pour pouvoir...
Voilà, il faut aller de ferme en ferme, je dirais, pour trouver des subsistances. Et donc, ce roi, il a quand même malgré tout un certain prestige parce qu'il a reçu le sacre de Reims. Et le fait de recevoir le sacre, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans une ambiance aussi religieuse, dans une presque théocratie, eh bien, ça lui donne un prestige supplémentaire et ça le place quand même au-dessus des autres grands seigneurs, des ducs de Normandie, de Guyenne ou d'autres, qui sont peut-être plus puissants temporellement, mais qui n'ont pas reçu l'onction du sacre.
Il reste quand même le seigneur des seigneurs, d'une certaine manière.
Voilà, il est en haut d'une pyramide qu'on peut appeler la pyramide féodale et malgré tout, le pouvoir que les autres ont découle du sien. En fait, ils sont des délégués de ce roi, même si ce roi lui-même n'a finalement que peu de pouvoir réellement.
Nous avons de nombreux vestiges de cette époque à travers notamment l'art roman, toutes ces merveilleuses églises romanes. Mmh. On oublie le reste, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a une image assez vague du mode de vie et du cadre de vie de la cour d'un roi comme Henri Ier.
Hein. Si vous voulez, la France du XIe siècle, c'est... une grande forêt, des marécages, des zones incultes, et puis par-ci par-là des îlots où il y a des petites villes, mais où il y a des villages qui sont défrichés. Bon, c'est vraiment encore une période extrêmement obscure. Hein, et ce roi Henri Ier, il circule de château en château, mais ce sont des châteaux, il faut pas imaginer Versailles ou Fontainebleau, ce sont des châteaux extrêmement frustes avec une tour. Parfois, ce sont des châteaux en bois, et donc voilà, c'est une période encore où on a une vie extrêmement rude, où la vie, en particulier la vie des paysans, est très courte et très très difficile.
Alors jusqu'à son mariage avec Anne, on ne peut pas dire qu'Henri ait été très heureux sur le chapitre conjugal.
Alors on a très peu de documents sur cette période, et c'est vrai que tout à l'heure vous avez dressé un portrait parfois un peu romancé de la vie d'Anne de Kiev. Si on revient, et quand on est historien, on doit finalement se limiter aux documents. On a très très peu de documents sur cette période.
Où sont-ils d'ailleurs, les documents?
Bah alors, soit
est-ce qu'on a des choses là-bas en Russie,
non,
alors, en Ukraine?
Ni en Ukraine ni en Russie, il n'y a rien de l'époque. Enfin, aucun document de l'époque ne parle d'Anne de Kiev. On parle de son père, bien sûr. Il y a une chronique qu'on appelle la chronique de Nestor, du moine Nestor, qui raconte l'histoire de cette première rousse de Kiev, hein. Mais
rousse, ça n'est pas du fait de la couleur de ses cheveux, hein. C'est rousse.
Voilà. La rousse, c'est-à-dire on ne peut pas utiliser le mot Russie pour l'époque, puisque le mot Russie est quand même plus du...
serait totalement anachronique.
Apparaît au XVIe siècle, hein. Donc on peut parler de rousse ou de ruténie pour reprendre le terme latin de l'époque. Donc on n'a absolument aucun document sur elle en Russie ni en Ukraine. Et en France, on a, elle apparaît effectivement dans quelques chartes. On a sa signature manuscrite dans un document de 1061, où elle signe d'ailleurs en lettres cyrilliques. Hein, donc c'est vraiment, on voit qu'elle était capable d'écrire. Mais on a chez les chroniqueurs des allusions extrêmement fugaces, hein, sur ce personnage. Donc sur le roi Henri Ier, c'est pareil, on a très très peu de choses. Autant son père Robert le Pieux est mieux connu, parce qu'il y a eu plusieurs vies qui lui ont été écrites sur lui, autant Henri Ier reste très très obscur. Certains chroniqueurs disent qu'il était mollisse. Alors comment doit-on traduire mollisse? Mou, efféminé, voilà. Alors on ne sait pas exactement. Certains ont imaginé qu'il avait peut-être des tendances homosexuelles, voilà, était, voilà, on ne sait pas exactement. Tout ça reste du domaine. S'il est vrai qu'il attend l'âge de 40 ans finalement pour convoler en os une deuxième fois, donc il n'est pas pressé de se marier apparemment.
Ce n'est pas un foudre de guerre, Henri Ier.
Pourtant,
il
a mené des campagnes. Je pense que, sans faire de la psychologie de bazar, le fait qu'il ait eu à s'affronter à sa mère Constance d'Arles, qui était une femme terrible. Et ça lui a peut-être, je te dirais, ça l'a peut-être traumatisé dans son rapport avec les femmes, et il a préféré attendre le plus tard possible, j'irais, pour se mettre la corde au cou. Et donc épouser, en plus, en épousant une princesse très lointaine qui n'aurait pas, disons, de partisans à la cour pour le...
Alors ce serait ça la raison, justement, de la recherche d'une alliance aussi lointaine. C'est qu'en fait, il voulait absolument quelqu'un qui soit extérieur aux alliances et aux réseaux déjà établis, en vérité.
Je pense, et puis aussi parce que l'Église, à l'époque, exigeait qu'il n'y ait pas de consanguinité, hein, et un cousinage, même au 7e degré, c'est-à-dire avoir un arrière-arrière-grand-père commun, ça suffisait pour que le mariage ne soit pas valide. Donc là,
changera par la suite, ça.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a pu épouser ensuite des cousines germaines, mais à cette époque-là, l'Église est extrêmement sourcilleuse sur ce point, et donc en allant chercher une princesse qui, bien sûr, n'a aucun lien généalogique avec lui, il était sûr de ne pas avoir les foudres de l'Église.
Disons les choses, elle possédait les clés de certaines grandes routes commerciales et aussi les clés des coffres qu'elle apportait avec elle.
Oui, vous parliez tout à l'heure de cette fameuse route commerciale. Alors bien sûr, nord-sud des Varègues, mais il y a aussi cette route est-ouest qui
part
de Kiev et qui va jusqu'en France finalement, à Verdun.
Les foires de champagne. Hein.
Et la principale denrée ou la principale marchandise, si on peut dire, étaient les esclaves, puisque le terme d'ailleurs esclave en français vient du mot slave, puisque à cette époque les esclaves étaient radiés parmi les slaves de cette région et ramenés donc jusqu'en France, et là ils redescendaient le Rhône pour être vendus sur le marché musulman en Espagne ou en Afrique du Nord. Donc on avait un circuit qui... Et donc la fortune finalement de Yaroslav le Sage, c'est une fortune un peu douteuse, puisque elle est fondée, je dirais, les coupoles dorées de Sainte-Sophie sont un petit peu teintées du sang des esclaves qui ont été vendus pendant des siècles.
C'est un aspect qu'on aborde rarement, hein, puisqu'on parle plutôt des fourrures et des métaux précieux.
On parle des fourrures, du miel, etc. Mais il y avait aussi et surtout les esclaves.
Bien sûr. Alors cette Anne de Kiev a sans doute... On peut l'imaginer, pour autant qu'on sache, puisqu'on a bien compris qu'on est obligé, lorsqu'on parle d'époque aussi reculée, de marcher un peu sur des œufs, on peut imaginer qu'elle a reçu une éducation très raffinée, car on est dans un foyer culturel important dans la Kiev de l'époque, Kiev de Yaroslav. Hein.
Oui, puisque donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une famille, les Rurikides sont une famille d'origine scandinave. C'est un peu comme les Francs qui sont venus en Gaule et qui sont venus de l'extérieur, qui sont une famille germanique finalement, qui s'est imposée comme pour diriger la masse des Gaulois. Eh bien, chez les Slaves, c'est la même chose. Voilà, les Slaves, la masse des Slaves ont eu une famille d'origine scandinave, d'origine germanique aussi, qui s'est imposée à elle, qui a structuré un État, donc l'État de la Rousse de Kiev. Et donc, on a effectivement à la fois cet apport germanique, hein, les premiers princes, d'ailleurs, ont des noms, comme vous le disiez, ont des noms d'origine viking, hein, mais aussi l'apport grec, l'apport de Constantinople, au niveau de la religion en particulier. Et donc, cette symbiose entre l'apport germanique et l'apport grec va donner cette culture particulièrement brillante de Kiev. Et c'est vrai que Anne a très certainement reçu une éducation raffinée. Elle savait écrire, elle lisait, bien sûr, mais c'est une éducation fondée surtout sur la religion, bien évidemment.
Alors, dans un instant, Philippe Delorme, nous allons voir quelle épouse Anne a pu être auprès d'Henri Ier et quelle mère elle a été dans l'ombre de Philippe Ier.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le règne d'Anne de Kiev est au cœur de l'histoire. Votre invité Franck Ferrand, l'historien et journaliste Philippe Delorme, auteur du livre Anne de Kiev chez Pygmalion.
On peut dire que c'est un exploit que d'écrire un ouvrage sur un personnage à propos duquel existe si peu d'archives.
En fait, j'ai voulu relever le défi. Je me suis un peu inspiré du travail qu'a fait le professeur Alain Corbin sur un sabotier de Normandie qui s'appelait François Pinagot, qui est un personnage complètement inconnu. Et il a réussi à faire une biographie.
Ça, c'est de la micro-histoire, oui.
Voilà. Et là, finalement, c'est un personnage. C'est une illustre inconnue, en fait. C'est un personnage.
Sauf qu'elle est reine de France.
Elle est reine de France. Elle est en plus. Ses descendants règnent sur tous les trônes d'Europe.
Oui, elle a une descendance incroyable.
Hein, oui, il y a peut-être 1 million d'Européens, hein, peut-être vous, peut-être moi, sommes descendants d'Anne de Kiev. Hein, donc on a vraiment, c'est vraiment un personnage qui est important dans l'histoire d'Europe et en même temps on a très peu de documents sur elle et c'était amusant, c'était intéressant, je dirais, c'était passionnant même d'aller rechercher ce qu'on pouvait dire sur elle.
Donc, je n'enfonce pas le clou, impossible de savoir quels étaient ses rapports avec son mari.
Alors, on a deux citations quand même. Ah. Hein. On a les grandes chroniques de France qui dit « La dame qui sainte vie menait pensait plus aux choses spirituelles contemporaines ». Donc, on a le portrait d'une dame qui était plus religieuse qu'autre chose. Et un autre chroniqueur, alors il est encore plus laconique, dit « Avec elle, le roi vivait heureusement ». Donc, c'est déjà, voilà, ça. Ce n'est pas une deuxième Constance d'Arles, c'est quelqu'un qui manifestement avait une conscience de son rôle de femme, d'épouse et de mère, puisqu'elle sera ensuite la reine-mère.
Alors, elle donne 3 fils voilà, à Henri.
Mmh. Une fille, peut-être. Alors, une fille qui s'appelait Emma, mais dont on perd la trace, et certains pensent qu'elle serait devenue une sainte qu'on révère du côté de en Bavière actuellement sous le nom d'Edigne, et ce serait peut-être cette fille qui serait partie. Alors là encore on rentre dans la légende, dans le mystère. Alors, en tout cas, ces 3 fils, bien sûr, l'aîné s'appelle Philippe, et Philippe, c'est elle qui probablement apporte ce nom en France, puisque ce prénom n'était pratiquement pas utilisé en Occident à ce moment-là. Donc on pense que c'est un apport d'Anne de Kiev. Et puis ses 2 autres fils, un va mourir très jeune, comme vous disiez, à l'âge de 5 ou 6 ans. Et puis l'autre, le dernier, Hugues, sera donc le comte de Vermandois et va créer une nouvelle branche donc de la famille capétienne.
Très important.
Très importante, qui ensuite, voilà, se disparaîtra et sera réintégrée dans le giron de la famille royale.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle a amené avec elle un certain nombre des prêtres qui l'avaient entourée dans son enfance kiévienne ?
Oui, je pense qu'on peut le supposer, parce que lorsqu'elle va fonder l'abbaye de Saint-Vincent de Senlis, donc au moment où elle sera veuve, vers 1060, on a la charte de fondation, qui est un texte d'une haute portée théologique, où il y a vraiment des allusions à vraiment une spiritualité orientale. Elle parle de la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, pour parler de la Sainte Vierge, qui est un terme vraiment grec. On parle du précurseur pour Saint Jean-Baptiste, etc. Donc on sent qu'elle a été encore entourée, enfin qu'elle avait gardé cette imprégnation, je dirais, de christianisme orthodoxe, même lorsqu'elle était depuis 10 ans à la cour de France.
elle a donné à ses enfants une excellente éducation, notamment à Philippe, qui va être un roi cultivé.
Oui, qui va régner pendant une quarantaine d'années.
Et grand roi, Philippe grand Ier. Roi.
D'ailleurs, on a dans les, là, on a quand même, oui, on a quand même quelques documents, puisque dans certaines chartes, on parle du pédagogus, c'est-à-dire le pédagogue, le précepteur,
voilà,
le précepteur du roi Philippe. Donc ça, c'est un terme grec encore, donc on peut imaginer que c'est elle qui a, voilà, qui a introduit cette fonction, cette charge à la cour de France.
Il y avait une différence d'âge tout à fait notable entre Anne de Kiev et son mari Henri Ier. C'est ce qui explique qu'il meurt.
Il
meurt
il y a à peu près une vingtaine d'années. Oui. En plus, les Capétiens, les premiers Capétiens ne faisaient pas long feu, je dirais, puisque lui va mourir vers 50 ans. Assez brutalement, mais bon, la vie était assez rude à l'époque. Les rois étaient batailleurs, ils mangeaient beaucoup. Enfin, donc tout ça fait que leur vie était relativement courte. Elle, par contre, on ne sait pas le temps qu'elle va vivre, puisque elle naît. Alors, on ne sait pas exactement vers 1025 à peu près, et on sait qu'en 1075, elle est probablement morte. Donc elle est morte à peu près à 50 ans aussi, enfin, autant qu'on puisse l'imaginer.
On pense qu'elle est morte autour de 1075, on ne sait pas où elle est morte.
Oui, alors tout à l'heure,
tout à l'heure, j'ai repris la jolie, voilà. La jolie chronique qui nous raconte qu'elle a revu les bulbes dorés de la porte de Kiev.
Il y a une chronique qui dit, voilà, il y a une chronique, mais qui est quand même assez postérieure, qui doit être du 13e siècle, qui dit que elle est retournée au sol natal.
Voilà. C'est ça.
Alors, le sol, bon, alors, c'est une possibilité, effectivement. Elle a pu retourner.
On aimerait le croire, parce que c'est beau comme histoire.
En même temps, toute sa famille était morte, donc elle avait plus du tout de lien avec Kiev. Non, on a cru à un moment qu'elle avait été enterrée à l'abbaye cistercienne de Villers, à côté de, ou de Villiers, je crois,
Villiers,
à côté de Villiers, oui, pardon, à côté des temples, mais c'était une fausse piste, je dirais. Non, le plus probable, ce serait Senlis, puisque Senlis, elle y avait fondé cette abbaye, elle y séjournait certainement lorsqu'elle était veuve. Donc voilà, Senlis, en tout cas, est la ville de France qui garde son souvenir.
Elle séjournait pas mal à Melun également. Donc
oui, elle avait aussi un château à Melun où elle vivait. Il faut voir que cette cour, comme je disais tout à l'heure, était très itinérante et qu'on ne restait pas toujours au même endroit. Mais c'est vrai que Senlis reste aujourd'hui, en tout cas, la ville qui garde son souvenir, garde sa mémoire.
Si l'émission s'arrêtait là, Philippe Delorme, nous passerions quand même à côté du chapitre peut-être le plus intéressant de la vie d'Anne de Kiev, puisque après la mort de son mari, donc elle est régente, elle est la mère du jeune roi, du tout jeune roi Philippe Ier. Et elle ne va pas rester célibataire bien longtemps.
Alors,
il faut raconter.
Parce qu'il y a aussi Baudouin de Flandre, qui est un peu le bras armé, je dirais, de la régence. Mais elle va pas rester effectivement aux côtés de son fils très longtemps, puisqu'au bout de 6 mois, 1 an, enfin au maximum, en 1061, elle file le parfait amour avec un certain Raoul de Valois, donc le comte de Valois, qui est un personnage truculent, qui avait été marié déjà plusieurs fois, qui effectivement, comme vous le disiez, était encore marié lorsqu'il s'en parle. On ne sait pas s'il l'enlève ou si elle part de son propre gré ou si elle est tombée amoureuse de lui. Enfin, tout ça reste un peu flou. En tout cas, on sait que c'est un scandale énorme à la cour. Le pape s'en mêle,
incroyable,
puisque la femme répudiée du comte de Valois se plaint en cour de Rome. Il y a échange de lettres.
Donc, il est considéré comme bigame, lui, puisqu'il vient de répudier.
Oui, puisque l'Église ne reconnaît pas la répudiation de la précédente femme. Donc, il y a échange de lettres avec l'archevêque de Reims. Enfin, tout ça fait un scandale énorme. Bon, malgré tout, apparemment, les choses se tassent, puisqu'elle reste quand même pendant un certain nombre d'années avec ce Raoul de Valois. On ne sait pas bien, d'ailleurs, si au bout d'un moment, elle ne va pas, comme vous disiez, rentrer à la cour de France. En tout cas, son nom réapparaît vers la fin des années 60. Voilà.
1060. Hein.
Voilà, 1060. Tout ça reste très nébuleux. Lui, Raoul de Valois, va mourir en 1074. Et à partir de 1074, donc c'est à peu près la date où on imagine que la reine va elle aussi mourir. Donc, en tout cas, son nom réapparaît comme la mère du roi dans un certain nombre de chartes.
Le temps est venu de l'éclaircie, Philippe Delorme. Il faut absolument chasser ces brumes et ces brouillards et parler de choses dont on est certain. Quelle est la postérité, si je puis dire, d'Anne de Kiev? Qu'est-ce qu'elle a laissé finalement à la France, cette reine du froid et de l'Est?
Tous les rois descendent d'elle, ce qui est quand même pas une...
Tous les rois descendent d'elle.
Tous les rois de France descendent d'elle, et tous les rois d'Europe,
puisqu'elle est la mère de Philippe Ier.
Voilà, aujourd'hui, aussi bien Élisabeth II, Philippe d'Espagne, puisqu'il a le prénom de son propre fils, Philippe de Belgique, ou Philippe d'Édimbourg, voilà, qui
incroyable,
sont les trois grands Philippe du Gotha aujourd'hui descendent d'elle. Au point de vue physique, je dirais qu'elle n'a pas laissé grand-chose parce qu'on a cru très longtemps qu'elle avait apporté avec elle un évangéliaire qui se trouve à Reims et qui effectivement est en caractère cyrillique. Mais cet évangéliaire, on sait maintenant qu'il a été apporté bien plus tard, au XVIe siècle, par un archevêque de Lorraine. Donc qui était cardinal de Lorraine et archevêque de Reims. Et donc c'est encore une belle légende sur l'apport. Je dirais que c'est plus un apport spirituel, un apport... un apport génétique,
Génétique et spirituel, voilà. Ce qui est déjà pas mal, somme toute.
Alors, c'est vrai qu'au 19e siècle, le personnage va réapparaître, va être réinventé.
C'est une forme un peu mythifiée, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Hein.
Voilà, parce que on est à l'époque de l'Alliance franco-russe, on est à l'époque de Nicolas II. Lorsque Nicolas II va venir en France à plusieurs reprises, eh bien, le personnage d'Anne de Kiev va être
mis en avant. La Russie. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est l'alliance entre la France et la Russie? Pour ce qui est de la France, c'est déjà discutable, puisque comme nous le disions tout à l'heure, on est vraiment dans les origines de la France. Quant à la Russie, on est plutôt dans la Ruthénie. Il faut me dire un mot de ce que va devenir justement cet État de Kiev.
Cette Ruthénie, finalement, pour utiliser le terme de Ruthénie, recouvre en une grande partie de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie actuelle. Donc c'est vraiment un État qui était immense, qui allait de la Baltique presque jusqu'à la mer Noire. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, ces trois États qui se battent, qui se font même la guerre assez tragiquement, eh bien, sont les héritiers, sont au même titre, la Russie est au même titre que l'Ukraine ou que la Biélorussie, l'héritière d'Anne de Kiev, finalement. Donc, je dirais qu'elle pourrait être, au lieu d'un ferment de division, un élément d'unité, de réconciliation entre tous ces frères slaves qui se battent, alors qu'ils ont le même berceau, finalement, qui est... cette ancienne Ruthénie.
C'est certain que les historiens sont revenus depuis la chute de l'Union soviétique sur un certain nombre des thèses soviétiques. Je parlais tout à l'heure des Varegs qui avaient été complètement mis sous le boisseau à l'époque soviétique.
Oui, alors les Varegs, comme je disais, c'est comme les Francs pour la Gaule. C'est des gens qui sont venus et qui ont apporté un État, une structure, mais qui n'ont pas apporté une population, je dirais, vu en nombre.
De la même manière, la question de l'origine de l'État russe pose de très grandes questions aujourd'hui encore.
L'État russe tel qu'il est aujourd'hui... recréé au XVIe siècle avec Ivan le Terrible, qui, ayant échappé à l'invasion mongole, va reconquérir le sud, va repartir à la reconquête du sud et reprend le nom de Rousse, mais dans sa forme hellénisée de Russia. Et donc cette Russie, donc qui naît au XVIe siècle, en quelque sorte, se présente comme l'héritière de la Russie de Kiev, de la Rousse de Kiev. Mais c'est un État nouveau finalement qui va en fait reconquérir par les armes cette terre qui avait été occupée par les Mongols et par les Polonais. D'ailleurs, comme vous disiez tout à l'heure, toute une partie de l'Ukraine actuelle et Kiev faisait partie de cet État polono-lituanien jusqu'au XVIIe siècle.
Anne de Kiev, épouse de Henri Ier, mère de Philippe Ier, c'est le nouvel opus de cette belle série de l'histoire des reines de France que publie Pygmalion et qu'écrit pour nous le chroniqueur des temps modernes, Philippe Delorme. Merci beaucoup Philippe Delorme. Vous avez sur le bandeau Anne de Kiev, une reine de France venue d'Ukraine, une très belle église orthodoxe, avec des brumes et des brouillards qui sont un peu, qui sont tout à fait conformes à l'image nébuleuse de la reine elle-même.
On vous retrouve dans un instant sur Europe 1 au cœur de l'histoire continue et vous répondrez Franck Ferrand à la question d'Aurélien sur l'origine des casinos.
Europe 1 au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez Franck Ferrand à la question d'Aurélien qui, via la page Facebook de l'émission, vous demande quelle est l'origine des casinos.
Le casino, c'est la petite casa, la petite maison. Donc c'est une petite maison qui, au XVIe siècle, désignait soit une maison de campagne, soit, disons-le, assez vite, une maison de plaisir, bien entendu. C'est devenu au XVIIIe siècle tout ce qui était, quand je dis plaisir au sens large, de maison de prostitution, mais aussi maison de jeu, des tripots, si vous voulez. Bon. Et c'est à Venise que serait née la première de ces petites maisons qui ouvre ses portes dès 1638 à Venise pour organiser vraiment des jeux de hasard qui existaient depuis toujours, bien entendu, mais les réunir tous au sein d'un même établissement dans lequel on se rend pour jouer, ça c'était assez nouveau en ce tout début du XVIIe siècle vénitien. Quand vous vous promenez aujourd'hui à Venise, il y a encore un certain nombre des maisons qui s'appellent le casino, tel ou machin. Les casinos, c'est les petites maisons, justement. Alors, le jeu en France a longtemps été interdit. Hein. Des familles entières avaient été ruinées. Il y a eu toutes sortes de vols pour rembourser des dettes de jeu. Ça a été à l'origine d'un fort libertinage. Et le pouvoir royal n'a eu de cesse d'interdire les jeux de hasard. Alors, ce qui était un énorme paradoxe, c'est qu'on les interdisait pour le commun des mortels, mais qu'on les encourageait à la cour, qui, elle, était généralement un véritable tripot. On constate une très grande tolérance de ce point de vue, notamment à la cour de Louis XIV, où une Madame de Montespan, par exemple, joue des sommes absolument vertigineuses. Hein. L'équivalent de plusieurs domaines ou châteaux joués en une nuit, parfois. Vous imaginez un peu les excès extravagants qui vont perdurer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. La reine Marie-Antoinette elle-même, du reste, jouait gros jeu. Alors, certains aristocrates sont allés jusqu'à transformer leur propre demeure en tripot. Je pense à l'hôtel de Soissons, à l'hôtel de Gèvres, évidemment. C'est le cas également de quelques ambassades, comme celle de Venise, bien entendu, qui bénéficiait de l'immunité diplomatique. Alors, étrangement, c'est la Révolution qui va libéraliser les choses. La Convention va autoriser 9 maisons de jeu à Paris. Et puis, comme toujours, c'est Napoléon qui réinterdit tout. Évidemment, il n'en est plus du tout question. Et c'est seulement en 1907 qu'une loi va autoriser officiellement la création de cercles de jeu et de casinos. Alors, avec cette fois la mainmise de l'État sur les recettes, hein, ça devient une affaire fiscale, cette histoire. En 1920, nouvelle contrainte, aucun casino ne peut s'établir dans un rayon de 100 km autour de Paris. Ça demeure, hein, d'ailleurs, cette loi de 1920, avec une exception qui a été admise en 1931 pour le casino d'Enghien-les-Bains. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck, aujourd'hui on parle de la crise de la quarantaine ou crise de milieu de vie, vous connaissez ?
Oh ben c'est loin derrière moi.
C'est loin. Oh, vous cherchez les flatteries. Alors est-ce qu'elle touche tout le monde ? Comment la surmonter ? On en parle avec un psy, Emmanuel Ballet, une journaliste qui vient de publier « Au secours, j'ai 40 ans » mais aussi l'acteur Charles Berling à l'affiche d'un très bon film « On voulait tout casser » sur le sujet.
Merci beaucoup Marion, nous nous retrouvons demain Ombline.
À demain Franck.